j'accueille maintenant sur notre libre antenne David. Bonsoir à vous, David.
Bonsoir, Sabine.
Bienvenue.
Donc, j'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai un peu le trac. Mais bon, ça va aller. Parce que même si j'ai fait l'animation par le passé, bon, j'ai oublié ces choses-là. Et bon.
Vous avez animé quoi?
J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je faisais des animations. J'étais quelqu'un qui n'était pas extraverti. Et puis par le cours de la vie, certaines choses, je suis devenu extraverti. J'ai animé des soirées, dansantes. Et puis, c'était le centre de... je sais pas comment expliquer ça, le centre de regard de gens quand je faisais des animations, enfin, quand j'allais très bien. Et d'ailleurs, j'avais appelé il y a quelques années dans votre émission pour, parce qu'on a tous nos petits problèmes, et puis moi je voulais appeler pour des petits problèmes que j'avais, et puis je l'appelais pas parce que voilà, parfois, bon. Et une fois, j'avais appelé pour remonter les bretelles avec quelqu'un, il dit ouais, faut sortir, faut remonter, je lui avais donné des adresses de sortie et tout. Et aujourd'hui, c'est moi au bout d'un an qui me retrouve. Dans une impasse très plus que difficile.
Bon, alors c'est moi qui vous tends la main ce soir, David.
Alors, parce que je vais vous expliquer, donc je suis en train de perdre mon travail parce que je suis en arrêt depuis un an. J'avais rencontré quelqu'un pendant mon arrêt, donc ça a cassé automatiquement parce que cette personne-là, au début ça allait bien, c'était devenu mon infirmière, et puis on sait très bien que...
Ouais, c'était pas la bonne raison.
C'est pas une infirmière, et puis de toute façon... à casser, de toute façon ça pouvait pas tenir. Et donc je suis tombé très bas dans le sens où j'étais social très riche. J'étais dans une entreprise où il y avait énormément de salariés. Je faisais énormément de sorties, on va dire que je voyais entre 200 et 300 personnes par semaine. Donc je voyais beaucoup de gens. Et du jour au lendemain, quand vous tombez malade, c'est un mois d'arrêt, après c'est deux mois d'arrêt, c'est enfin des arrêts prolongés tout le temps.
Qu'est-ce qui vous est arrivé au niveau santé ?
C'est-à-dire que je pense que j'étais quelqu'un, un grand manque de confiance, donc je suis quelqu'un qui se restait souvent célibataire, même si j'ai eu beaucoup de compagnes. Hein. Et j'ai vécu en autarcie, un peu comme un autiste pendant des années, c'est-à-dire que je me défendais, je vivais dans mon petit monde, j'avais beaucoup d'amis, j'avais une vie très active, et puis j'avais pas de problème de santé. Et puis l'année dernière, j'ai commencé à avoir un problème, j'avais des petits problèmes de santé, un problème de vue, ma vue qui a baissé. Et puis bon, j'ai pas fait trop cas, je vivais avec, c'était pas méchant, c'était l'âge, moi je vais sur mes 50 ans. Et puis au mois de septembre, j'ai été hospitalisé pour une crise d'angoisse, des problèmes de déglutition, donc j'arrivais plus à avaler. Et c'est parti dans tous les sens, c'est-à-dire que j'avais de la tachycardie, j'arrivais plus à respirer, donc j'avais un médecin qui me disait « mais vous inquiétez pas, tout c'est dans la tête, patati, patata ». Et donc, il voulait pas me faire reprendre le travail, donc tous les mois, j'allais voir mon médecin, il n'était pas question de reprendre le travail. Mm-hmm. Il me bourrait il me filait des neuroleptiques, des anxiolytiques, il cherchait pas plus loin.
C'est ce que j'allais vous demander, sans aucun examen physique, médical.
J'ai fait plein d'examens médicaux parce que donc on a pensé que c'était la thyroïde. Après un moment, vu que j'ai problème pour respirer, on a fait les poumons. J'ai été paralysé à un moment de la main, d'un bras. Donc j'ai pensé à la fibro ou la sèpe ou des trucs comme ça. Bon, c'était pas ça. Et puis en réalité, je me suis rendu compte que c'était les neuroleptiques qui me donnaient. Donc j'ai arrêté toutes ces saloperies.
Ah oui, les effets secondaires.
Donc maintenant, de temps en temps, je suis aux Xanax parce que pour faire ce qu'on appelle de... Je suis arrivé à un stade, parce que bon, j'ai fait une psychothérapie il y a quelques années. Vous savez, le stade où on a tellement de négatifs, je crois que c'est l'anhédonie, c'est-à-dire que, je ne sais plus le terme, c'est-à-dire qu'on se libère de tous les sentiments. Et les anxios aident à oublier tout le mauvais, tout le bon. C'est pas une solution, mais c'est une solution provisoire.
C'est comme un airbag, on va dire.
C'est une béquille, mais c'est pas une jolie béquille. Enfin, maintenant, je suis en train de partir sur des compléments alimentaires, sur les plantes.
C'est une bonne idée aussi.
Et puis,
une bonne alimentation aussi, pas que les compléments.
Une bonne alimentation. Et puis, le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois, mon médecin, donc j'étais malade à crever, j'avais mal partout, de toute façon. Et puis, ballonnement, nausées, machin. Et puis un jour, ils se sont rendus compte qu'ils me surdosaient depuis des années sur un médicament qu'on ne va pas citer, sur un inhibiteur de la pompe à protons pour les gens qui ont des problèmes d'estomac.
Problèmes d'estomac, oui, c'est ça.
J'avais une surdose depuis 5 ans. Donc du jour au lendemain, on a mis la dose normale. J'ai eu plus de problème.
Ah.
Résultat, ce qui s'est passé après, je suis chopé de l'hypertension parce que un mois d'arrêt à se bouffer des médocs et puis plus travailler, machin. Donc là, c'était hypertension, des douleurs intercostales. Le confinement, pendant le confinement, je suis parti vivre chez ma compagne, que j'avais rencontrée pendant ma maladie. Et les relations se sont dégradées avec ma compagne. Donc j'ai changé de médecin. Le nouveau médecin que j'ai eu a été très intelligent. Il m'a proposé un mi-temps thérapeutique parce que j'étais dans un état où je ne pouvais pas reprendre à plein temps. Et vu que j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de jour-nuit, que ça m'a détruit, parce que j'ai eu pendant 10 ans des antidépresseurs à cause de ça.
Ouais, ça, c'est extrêmement important ce que vous mentionnez là. On sait à quel
Voilà.
point ça use, hein, les horaires
Voilà.
décalés.
Et donc, mi-temps thérapeutique, il était que le temps. Donc, je reprenais mon poste, mais sans faire les nuits. Et il m'a été refusé, alors que ça aurait été que 2, 3 mois sans faire les nuits, ça m'a été refusé. Donc, mon médecin était sur le luc, on va pas dire le terme grossier. La santé, la sécu était OK, tout le monde était OK, mais seulement ça m'a été refusé. Et puis, au fur et à mesure, une activité, moi qui faisais 15 000 fois par jour, je me suis donné un peu taré, quoi, parce qu'en gros, pour vous dire, j'écris, je suis quelqu'un qui écrit, je fais de la mécanique, je marchais beaucoup, j'étais beaucoup sur l'ordinateur, donc, et puis du jour au lendemain, vous ne faites plus rien. Alors, je bricolais sur ma voiture, ça m'occupait, de temps en temps un peu, mais voilà, mais c'est pas ça qui va vous rassurer les gens. Il y a le confinement qui nous a tous, qui a tout changé dans la société, notre façon de nous a isolés, de toute façon, les gens, enfin, nous a isolés, même aujourd'hui, on a du reste du confinement. Donc, j'étais à voir le médecin du travail. Et vu que j'ai eu en plus un accident, ma vue, à ce moment-là, ma vue a commencé à baisser sérieusement. Mais là, quand je dis baisser sérieusement, là, c'était plus problème de. Vous savez, avec l'âge, on a la presbytie, l'hypermétropie. Moi, j'ai chopé la l'hypermétropie à mes 50 ans. Bon, ça, on comprend, quoi. Mais
Ça
là, le problème,
risque,
c'est que. Bon, là, le problème, c'est que ça baissait, c'est-à-dire que je voyais de moins en moins, de plus en plus en moins. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez la voiture, vous avez un nuage, vous voyez la nuit. Vous allez vous balader, faire une randonnée, il y a un sous-bois, machin, vous êtes dans la nuit. Donc, psychologiquement, quand vous avez vu pendant, nickel, pendant 50 ans, du jour au lendemain, votre cerveau, il n'accepte pas.
mais vous avez passé
Donc,
tous les examens au glaucome et tout ça pour
alors,
vérifier?
j'ai fait plusieurs ophtalmos, puis ils n'ont rien trouvé.
Oui.
La dernière, elle m'a envoyé un peu balader parce que c'était à Rennes. Moi, donc, je suis à Morlaix, hein, du côté de Morlaix. Et on était pressé pour rentrer. J'étais avec une amie, donc elle a fait, vous avez rien, machin. Bon. Donc demain, je vais aller voir un neurologue. Et après demain, je vais aller voir un hypnothérapeute qui va m'aider parce que aujourd'hui, il faut que je vive avec mon handicap, c'est-à-dire qu'il faut que
Un hypnothérapeute, vous avez dit.
il va faire de la PNL, c'est-à-dire que
Oui, d'accord.
donc c'est l'hypnose, mais vous êtes éveillé, quoi.
Mais on ne dort
Donc
pas pendant l'hypnose. Hein.
oui, enfin oui, parce que les gens croient qu'on dort, mais ça,
Non, mais ça, ce sont des croyances, ça, c'est pas la
c'est
réalité.
du cinéma. Hein.
Bien sûr.
Et donc cette personne-là, j'espère que ça va m'aider un peu, parce que moi, ma vue sur beaucoup de choses, parce que j'ai fait de. Ma vue, c'était principe, enfin c'était ma. De toute façon, comme nous tous, hein, c'était. Moi, je suis dans une très belle région, c'est un plaisir, quoi. Voilà, moi, je suis en Bretagne, vous avez des très jolis paysages. Enfin,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ne voyez pas?
c'est-à-dire que tout est dégradé. C'est-à-dire que j'avais déjà de la myodésopsie. Bon, c'est pas méchant, vous savez, les mouches volantes, bon, ça arrive avec l'âge. Donc maintenant, je vois beaucoup plus sombre qu'avant. Les médicaments font aussi que j'ai la vision. J'ai des problèmes au niveau des contrastes, au loin, quoi. Donc, les belles couleurs et les belles images, je les vois plus. Et je pense, moi, par rapport à ça, ce qui me fait énormément de mal, c'est les dernières vacances que j'ai passées avec des amis en Grèce l'année dernière, au mois d'avril. Et des souvenirs magnifiques. Et je me dis, mince, est-ce que je pourrais revoir ça, quoi? Parce que, bon, il y a des gens qui perdent la vue. J'ai pas perdu la vue, hein, je vois. Hein, mais j'ai perdu énormément de qualité. Hein, c'est plus qu'en qualité de vue, parce que c'est psychologiquement, ça atteint, quoi. J'en deviens agora, enfin, plus presque en sortir, quoi, de la maison. Donc, je suis devant la télé, j'essaie de regarder un peu la télé. L'ordinateur, j'avais un ordinateur LED parce que je connais, je suis dans le technique depuis des années. Moi, je l'ai foutu en l'air, je l'ai cassé parce que je pense que la vue, le LED, enfin, le LED est la structure de la rétine à long terme, si on abuse. Bon, ça c'est un domaine technique un peu particulier. Hein, parce que moi, je suis technicien médical à la base, donc c'est-à-dire que j'ai eu une formation, j'étais sur un mauvais chemin pendant 30 ans. Hein. Moi, j'ai bossé dans le clinique pendant. J'ai commencé en 89 en clinique, j'étais à plein temps en 96. Et là, je suis en arrêt depuis un an. De toute façon, ça devait s'arrêter à un moment ou à un autre parce que j'étais dans un milieu ingrat et moi, je suis plus quelqu'un qui fonctionne dans le social. Je suis quelqu'un qui suis dans le partage avec les autres, dans la création. Et bon, de toute façon, à un moment ou à un autre, de toute façon, enfin, le corps, il a dit stop, je pense. Et donc, pour venir au médecin du travail, la dernière fois, donc il m'a. Vu que j'avais en plus un accident à l'œil, j'ai eu un accident à l'œil, bah, j'ai eu un coup dans l'œil. J'avais des restrictions, donc plus faire de nuit, plus faire ça. Puis là, on m'a proposé un mi-temps thérapeutique, à nettoyer des machines dans l'entreprise, avec un chiffon et du pétrole. Et moi, je me suis dit, non, là, je peux pas. Parce que là, j'avais un poste quand même pendant presque 30 ans, 6 000 cadres. J'avais des responsabilités. Puis du jour au lendemain, on vous dit, bah, vous allez nettoyer les machines.
Oui.
Donc, puis, vu que j'avais des examens réguliers, j'avais dit à mon médecin, je pourrais pas. De toute façon, psychologiquement,
Vous
je ne pourrais
tiendriez
pas.
pas.
Donc, je devais reprendre au mois de début septembre. Donc, j'ai pas repris. De toute façon, j'avais des rendez-vous médicaux. Bon, j'ai pas, alors, ce qui va vous étonner, j'ai pas vu de. J'ai aucune aide psychiatrique ni psychologique. J'ai eu une psychologue en début d'année, mais qui me. Moi, les clés, je les connais. J'avais fait une psychothérapie il y a un an et demi. Bon.
Attention, attention David, on a beau connaître les clés, si on ne s'en sert pas, elles ne nous servent à rien.
Je m'en sers pas, voilà.
Voilà, c'est bien ça ce que je comprends, je viens de
Et
comprendre.
voilà. Et j'avais vu, et j'ai pas vu. Donc on m'a donné des adresses de psychiatre. Et puis enfin, à chaque fois que j'appelais, c'était la personne n'était pas là, c'était en vacances, machin. Donc finalement, je me suis jamais fait aider. Et là, on m'a proposé d'aller en maison de repos. Bon, peut-être que j'irai en maison de repos. Mais le plus dur dans l'histoire, c'est la solitude, parce que. J'avais eu une amie derrière mon téléphone, m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Elle m'a dit, bah, je fais plus rien de mes journées. C'est-à-dire que je me lève le plus tard possible. J'essaie de fermer mon ordinateur, mais je fais plus rien de mes journées. Donc, et puis les amis, donc j'ai plein d'amis, hein. Heureusement que j'ai des amis formidables autour de moi, donc bah, je vais les embêter un peu, quoi, de temps en temps. Mais les gens, bah voilà, bah, vous pouvez pas. Moi, j'ai pas. Voilà, je suis célibataire, sans enfant, je suis. Voilà, et la famille est éparpillée dans toute la France. Mes parents sont très anxiogènes, donc je vais les voir très peu de fois parce que ça ils me ramènent en plus de l'anxiété en plus.
Ça a
Donc
toujours été comme
c'est.
ça ou c'est parce qu'ils sont âgés?
Oui, ça a toujours été comme ça. Hein.
Ah.
Ah oui, parce que
Donc
mon
vous avez
caractère.
été vous aussi biberonné à l'angoisse alors.
Ce qui s'est passé, moi, mon manque de confiance, parce que je suis quelqu'un qui a des capacités, c'est ça qui est fou, hein. J'ai des capacités énormes. J'aurais dû réussir dans ma vie normalement. C'était par rapport à un manque de confiance qui a été dû au fait que j'ai été. J'ai sur les deux bouquins que j'ai fait, donc je l'explique dans les deux livres. Hein. Il y en a un qui paraît bientôt. Hein. Peu importe, je ne donnerai pas le
Non,
titre à
peu importe,
l'antenne,
ce
c'est pas grave.
sont des livres sur quoi?
C'est un livre c'est un pagnol, on va dire, à la sauce années 70, hein, sur les souvenirs d'enfance d'été. C'est-à-dire quand j'étais enfant, je vous ai expliqué, donc ma mère a divorcé, m'a pris sous le bras à 3 ans. Donc je suis pas, là on joue pas dans le Zola, hein, c'est pas aussi triste que le Zola. Donc elle m'a pris sous le bras à 3 ans, elle est partie vivre à Paris. Donc elle a divorcé de mon père, ça se faisait pas à l'époque. Hein. Et quand je passais mes vacances, mon père me prenait, il me balançait chez ma grand-mère, qui était une grenouille de bénitier. Et j'en étais très malheureux, donc je passais un mois très malheureux donc à la campagne. Heureusement que j'avais mon grand-père qui était à côté à l'époque. J'allais faire les moissons, et voilà, j'avais les joies de la ferme à l'époque. Et de l'autre côté, bah, c'était côté mère, j'avais mes grands-parents côté maternel, eux c'était à la mer, donc on passait un mois à la mer tous les ans, dans le Morbihan, et là j'avais d'autres souvenirs qui étaient très différents. Et donc c'est un livre qui parle avec un certain lyrisme de souvenirs d'enfance, mais finalement il est dur, hein, parce que moi, quand je lis préface, j'ai revu le jour le préface de mon livre et le résumé, c'est vrai qu'il est très dur quand même. Donc il parle de ses souvenirs d'enfance et d'abandon. Donc c'est ça qui m'a, ce que j'ai eu plusieurs fois dans ma vie,
Oui.
toujours eu cette peur d'être abandonné, et donc qui m'a entraîné dans ce problème de confiance en moi, donc qui est bouffant parce qu'après, même avec les femmes, hein, j'ai eu plusieurs compagnes, mais on m'a dit un jour quelqu'un me l'avait dit, c'était vrai, qu'on me choisissait mais je ne choisissais pas. C'est-à-dire que les personnes qui m'intéressaient, on va dire, je n'osais pas,
C'est
je
ça,
n'osais pas,
j'ai l'impression en vous entendant, David, qu'il y a une partie de vous qui pense qu'elle ne mérite pas finalement dès qu'on l'aime.
Voilà. Oui, c'est ça. Et mes amis comprennent pas. Parce que puis là, quand ils me voient, ils me disent, mais on t'a pas connu comme ça.
Mais ils voient la vitrine, vos amis.
Il voit la vitrine. Il voit la vitrine, il voit pas ce qu'il y a derrière.
Et
Et enfin, ce
presque.
qu'il y a derrière
Très.
remonte, hein, parce que pendant
Mais oui,
10
bien
ans,
sûr.
donc, j'ai eu 10 ans d'antidépresseurs. Par contre, je les conseille. Alors, bah, si les gens ont besoin d'antidépresseurs, les antidépresseurs, il faut que ce soit à court terme. Parce que le problème des antidépresseurs, moi, les 10 ans d'antidépresseurs, ce que ça m'a fait, ça m'a pas fait de maux, on va dire, physiques. Hein. Mais ça m'a enlevé tout le côté émotionnel. Parce que moi, j'ai appelé ça à l'époque le médicament anti-con. C'est-à-dire que, avant, j'étais à fleur de peau. Donc, du jour au lendemain, j'étais plus à fleur de peau. Quand il m'arrivait une bêtise, bah, hop, j'oubliais. Mais toutes les émotions, ça me les avait refoulées
C'est pour ça
au
tout à
fond
l'heure
du
je vous
vide.
parlais d'airbag. L'airbag nous maintient à distance et nous sauve la vie peut-être, mais effectivement ça nous maintient à distance dans les deux sens du terme. Quelquefois on aurait besoin de ne plus avoir cette distance. Et c'est là où je vous rejoins, quand on peut, évidemment, il faut éviter le long terme. C'est pas le
Non,
but.
long terme.
Je compare souvent ça à un plâtre. Vous savez, quand on se casse la jambe, il faut un
Voilà.
plâtre. Mais à un moment donné, il faut l'enlever et se
Il faut
rééduquer.
l'enlever rapidement. Voilà. Et nous, bon, aux États-Unis, au Canada, ils ont ce qu'on appelle des méthodes de déprescription. C'est-à-dire que ils ont un système. Bon, il y a le système occidental, hein, le système asiatique et le système américain. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, quand ils ont un médicament, hein, un chimique, on revient vers eux, puis on leur dit bah, est-ce que ça va mieux ou pas? Puis que ça va mieux ou pas, de toute façon, on arrête le médoc, on passe à autre chose. Parce que c'est sur du long terme, là, il y a plus d'erreurs secondaires que bon,
Plus de dégâts que
négatifs.
d'avantages. Ouais.
Et donc aujourd'hui, bah, je suis dans une impasse abominable parce que je sais que je ne reprendrai plus mon poste. J'ai su que, vu que mon médecin, le médecin du travail, bah, j'ai voulu reprendre ma mi-temps thérapeutique, même la nuit. Et le médecin du travail m'a dit, ah non, non, vous ne ferez plus la nuit, de toute façon, parce que vous n'êtes plus à faire la nuit. Vous n'êtes plus à faire la nuit. Donc, mon poste, je ne pourrai plus le faire, puisque mon chef de service, il veut à tout prix que les nuits soient dedans. Donc, je vais perdre mon poste, il est perdu définitivement. Dans mon entreprise, de toute façon, je pense que j'aurais énormément de mal à revenir, parce que même mes collègues proches n'ont pris aucune nouvelle bah, pendant un an.
Ouais, je pense qu'il y a une page à tourner là et que ça va être peut-être intéressant de travailler là-dessus en hypnose.
Et j'avais demandé d'ailleurs en hypnose, parce que donc, quand vous faites une pré-séance d'hypnose, vous passez 3 heures et la personne vous demande ce que vous voulez exactement. Et ben moi je lui dis ben, j'ai vécu sur le mauvais chemin pendant 30 ans. Il va falloir que je change de chemin. C'est très dur hein, parce que dans la vie, dans un bouquin, dans le deuxième livre que j'aurai à paraître, j'ai des proverbes. Et je dis que ce qui fait peur souvent dans la vie, c'est l'inconnu. Et si on vit dans la merde, si on vit dans la merde du jour au lendemain, si on est tout le temps dans la merde, ben, on reste dedans souvent parce qu'on connaît ça. Donc on n'a pas peur, on connaît.
C'est vrai,
Et si même si on.
notre cerveau a toujours peur de l'inconnu, oui, c'est vrai.
Voilà. Et si on a quelque chose de plus gros devant, on se dit, ah oui, non, non, mais là, je vais pas y aller parce que c'est
C'est
l'inconnu, je
louche.
vais me casser la gueule. Et à un moment ou à un autre, donc j'avais dit à mon psy, quoi, l'hypnothérapeute, de toute façon, là, bah, il faudrait que vous me foutiez dans la tête que je change, quoi, que je plaque de tout au tout et puis peut-être partir sur une vie plus simple. Parce que j'étais quelqu'un de très matériel. Je suis un collectionneur, hein, je suis un collectionneur compulsif. Si vous voyez le nombre de collections que j'ai sur moi, j'étais quelqu'un de très matérialiste. Je vivais dans une maison, voilà, avec. Je sais pas comment vous expliquer, je bricolais dès que je pouvais faire un truc au niveau technologique, faire des bricoles, tout ce qui avait rapport à la technologie, je faisais. J'ai eu des collections sur des véhicules, enfin, j'ai une collection, j'ai peut-être des gens qui vont me reconnaître, j'ai 1000 voitures en collection, vous savez, des miniatures, j'ai fait des collections de montres, j'ai fait des collections tout sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, enfin voilà. Mais je vivais dans ce monde-là parce que ça me protégeait, ça m'a protégé pendant des années, parce que j'avais un manque de confiance en moi, donc c'était un certain autisme. Et la maladie, bah, la maladie vous rattrape et là vous vous retrouvez seul. Et là, bah,
À
je vous dis
propos
merde.
de maladie, David, qu'est-ce que vous cherchez avec le neurologue demain? C'est quoi l'objectif?
Le Renault, bah, on a alors voir si il y avait une SEP. Donc SEP pour ceux qui savent pas, les gens ne savent pas ce que c'est, la sclérose en plaques, parce que j'ai eu plein de, bah, ça partait dans tous les sens, normalement, hein, les problèmes de santé. Et j'ai eu de temps en temps des problèmes de tachycardie. Donc voir s'il y a un problème
C'est la première fois, ce sera la
SEP.
première fois que vous allez rencontrer un neurologue?
Oui, que je vois un neurologue, oui. Ouais.
D'accord. Donc ça,
SEP,
oui.
tumeur ou fibre. Alors bon, fibromyalgie, bon, c'est encore une autre histoire.
Oui, je pensais à ça en vous écoutant, mais ça ressemble quand même beaucoup à des symptômes de dépression, ce dont vous parlez là.
Et j'ai une dépression en plus, parce que la
Ah bah oui,
dépression
évidemment.
que j'avais pas au départ, ben la solitude, ben voilà, c'est. Alors j'essaie de squatter le plus possible chez les amis, mais voilà, mais c'est. Alors que j'ai mon chez moi, je paye mon chez moi, j'ai. Bon, j'arrive, ma paye a diminué automatiquement, j'arrive à joindre les deux bouts, mais mon chez moi, il est. Voilà, Enfin, il est morne quoi aujourd'hui quoi. Et donc automatiquement la dépression elle est là quoi. Et je me suis pas fait aider, donc à un moment ou à un autre, il faudrait
C'est ça que
que je me
j'entends
fasse
aussi
aider.
dans votre discours, c'est que vous avez quand même été un bon petit soldat qui a tout pris sur ses épaules tout seul
Oui,
et que là,
et pendant des années.
Ouais,
Oui,
mais là,
je ne peux plus.
je voilà,
Et là, je ne peux plus.
je crois qu'il est temps, de vous ouvrir un peu aux autres, à des
Et là, je ne peux plus,
thérapeutes, à
quoi.
des médecins. Tiens, il y a Anna qui envoie un petit message en disant qu'elle aimerait rentrer en contact avec vous, et il lui arrive la même chose. Elle laisse son numéro de téléphone si jamais vous le souhaitez. Il n'y a pas
D'accord,
d'obligation.
oui. Oui, il n'y a pas de, oui, pas
Mais
de souci.
je pense que ce que la vie est en train de vous dire, David, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il faut accepter de se poser et d'aller chercher de l'aide.
Oui, parce que moi, je faisais tout seul. C'est-à-dire, pendant des années, je faisais tout seul. J'ai acheté la maison tout seul. Enfin, des exemples, j'ai acheté des voitures en Allemagne tout seul. Dès que j'avais des emmerdes administratives tout seul, dès que j'avais des dégâts, enfin, dès que ça arrivait dans une maison, je faisais tout seul. Des problèmes familiaux, je faisais tout seul. Et vous le faites pendant des années tout seul. Et au boulot, quand ça allait pas, bah après votre haine, vous la bouffez quand vous rentrez tout seul à la maison. Vous avez aucun exutoire. Puis au bout d'un moment, ben voilà. Je pense que le corps il dit stop et puis il faut lâcher prise.
Exactement, exactement. Je le dis très
Et
souvent, la dépression vient nous dire quelque chose de notre histoire et du chemin sur lequel on est et qui n'est pas le bon. Toujours, il y a une raison à ça. Et quelques années après, quand on a su se servir de cette information-là, on se dit bah, finalement, c'était un mal pour un bien parce que j'ai compris beaucoup de choses à ce moment-là.
Ah oui, de toute façon, dans un autre, je vais tomber. Je devais tomber, hein. De toute façon, c'était bon.
Et
Et là,
c'est.
la vue,
Oui.
et là, la vue, c'est le pire, quoi. La vue, je me dis. Puis là où j'ai peur, hein, bah, l'avenir, c'est. Ce qui me revient le plus, c'est est-ce que je pourrais réapprécier les bons moments que je passais avec mes amis quand on partait en vacances, ou des choses comme ça, ou réapprécier
Bien sûr que
le
oui,
bord de
David,
mer.
vous allez vous réinventer, bien sûr. On peut remonter de tout. Après, ça dépend quel chemin on prend, avec qui, de comment on se fait accompagner. C'est.
Donc voilà, donc j'appelais pour témoigner. Donc après, donc, je vous ai fait un résumé. J'étais quelqu'un de, voilà, j'étais un très bon vivant, hein, j'étais un très bon vivant, très dynamique.
Oui, ça s'entend. Mais vous l'êtes encore. Vous n'avez pas
Je le sens
changé
encore.
fondamentalement, c'est juste qu'il y a quelque chose pour l'instant qui vous dit que, attention, tu n'es pas sur le bon chemin. Et je crois que
Ah oui,
vous l'avez déjà compris.
mais je m'entêtais, j'ai été.
Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire, j'avais perdu le fil dans l'intervalle. C'est très classique de cette blessure d'abandon que vous mentionnez. Quand on a tellement peur de ne pas être aimé, de pas avoir assez de valeur, finalement, on ne demande pas d'aide parce que ben, on veut être fort. On se dit, mais si je suis faible, on ne m'aimera plus. Si je demande de l'aide, peut-être qu'on ne m'aimera plus. Et c'est complètement faux. Il faut oser demander de l'aide. Enfin,
Oui,
ça
puis
n'est
on
pas une
me.
preuve de faiblesse. On a tous besoin d'aide à un moment donné dans notre histoire de vie. Tous.
Puis j'avais deux peurs par rapport à ces aides-là. Donc il y avait la psychiatre. Donc moi, j'avais pas envie d'avoir par rapport à un psychiatre des médocs en plus parce que.
Bah, oui, je comprends tout à fait, mais dans ces cas-là, il y a d'autres thérapeutes. Hein.
Il y a d'autres thérapeutes. Et
Oui.
il y avait la maison de repos. J'avais pas envie de tomber non plus avec. Voilà. Dans un endroit fermé, clos. Voilà.
Écoutez-vous, David, j'ai l'impression que vous avez une bonne intuition, vous savez ce qui va être bon pour vous.
Donc moi, alors moi, donc vous dire les pistes, hein, que je me suis données, hein, donc je
Oui.
l'ai donné à mon thérapeute, c'était de partir, par exemple. Donc je connaissais quelqu'un à La Réunion. C'était de changer de tout au tout. Donc par exemple, moi qui aimais bien la randonnée, par exemple, partir faire de organiser pour les gens, donc là, des randos, donc comme dans un pays d'outre-mer, hein, c'était un exemple. Hein. Partir
Alors,
dans un autre pays
oui.
et sur des bases plus simples, pas
Alors,
plus.
attention quand même à une chose. Avoir des projets, c'est bien, ça tient debout.
Oui,
Mais
mais faut être fort pour les. Là, je suis pas
c'est-à-dire que quand on
aujourd'hui.
part quelque part, quand on n'a pas résolu ses problèmes, on les amène avec
Voilà,
soi.
on les
Il ne
amène
faut pas
avec soi.
imaginer que le fait de partir loin va les faire disparaître. Ça n'est pas vrai.
Exactement,
Ça, c'est
oui,
un
la peur,
fantasme que
on...
beaucoup de gens ont.
oui.
Et après,
C'est les
on se le reprend
travaux,
en boumerang deux fois plus fort. C'est pas une bonne idée. Non,
Moi, j'ai eu des convois des. Oui,
ce que je trouve
vous avez
intéressant,
raison.
c'est de lister déjà tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et tout ce que vous pourriez faire pour aller mieux. Parce que quelquefois, quand on voit les choses écrites, ça change la donne. Juste être clair avec vous qui aimez écrire, vous listez vraiment de manière très pratique. Voilà tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui pour essayer d'aller mieux. Les médecins que j'ai vus, les thérapies que j'ai essayées, les médicaments que j'ai pris. Puis vous faites une deuxième liste avec tout ce que vous auriez envie de faire. Ou tout ce que vous pourriez, à qui vous pourriez demander de l'aide, par exemple. Tout ce qui vous vient à l'esprit. Parce que vous savez, la dépression, d'abord, il faut accepter que c'est une maladie. Et la première chose à faire pour lutter contre une dépression, c'est de ne pas d'être dans le mouvement, même si c'est un tout petit mouvement, de garder tous les jours une action.
Oui, une action, c'est ce qu'on me dit, de prévoir toujours. J'ai une amie qui me dit, bah, demain, tu fais ça à toi,
Un petit
ton
truc,
action demain, tu vas prendre un
même
petit
simple
truc.
promenade à l'extérieur. Mais le fait aussi de prendre l'ordi ou un crayon à l'ancienne et d'écrire, écrire tout ce que vous pourriez faire pour aller mieux, écrire, réfléchir à qui vous pouvez demander de l'aide dans tous les domaines, matériel, moral, psychologique. Rien que ça, c'est déjà reprendre les rênes. Vous savez, c'est ne pas vous laisser mener par une dépression, mais reprendre les rênes doucement. Puis je pense que surtout, il y a un vrai travail de fond à faire avec votre hypnothérapeute, puisque vous avez choisi cette voie-là.
Oui, parce que
c'est cette blessure d'abandon qui vous pourrit encore la vie aujourd'hui. Hein.
Abandon, méchant, il y a des choses d'abandon et puis manque de confiance. Moi, je sais que l'entreprise, par exemple, il y a des choses moi, qui m'ont choqué. Hein. Ma mère, par exemple, j'ai su après par le passé que ma mère désirait une fille. Comme vous savez, elle avait un garçon.
Ah, voilà.
Ma mère était tout le temps malade. Ça que je conseille. Alors ça, les enfants sont des éponges. Et ma mère, à tel temps, elle était quelqu'un qui avait des gros soucis de santé. Donc, quand j'ai vécu sous le toit de mes parents, je suis parti à 25 ans, parce que le temps d'avoir un boulot à plein temps, hein, j'ai entendu pendant 25 ans des problèmes de santé. Donc, et moi, en tant qu'enfant, quand ma mère, à chaque fois, parlait de ses problèmes de santé, ben moi, c'était moi qu'on charcutait à côté. Et moi, je prouve donc les parents, quand ils ont leur progéniture, il faut les protéger de ça. Parce qu'on ne se rend pas compte que les enfants sont des éponges.
Mais certains parents n'en sont pas capables, justement, parce qu'ils vont mal eux-mêmes. Ils sont tellement écrasés sous le poids de leur souffrance à eux qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils font mal aux enfants.
Parce qu'après, nous, on se dit, je vais être comme ma mère ou machin. Et moi, je l'ai absorbé pendant des années, ça. Et pareil, l'entreprise donc, dans laquelle, manque de confiance, je suis arrivé, où je ne suis plus, où je suis en arrêt maladie actuellement. Quand j'ai commencé, ma mère m'a mis dans un autre service, elle m'a dit, je te mets dans cet autre service-là, autre que le mien, parce que je ne sais pas ce que tu vaux, puis comme ça, s'il y a des boulettes, quoi que ce soit, ça ne retombera pas dessus. Ben, je peux vous dire, ça m'a choqué. Parce que ça veut dire que, moi, ça m'avait énormément choqué. C'est-à-dire que, oui, il y a un manque de confiance énorme. Quoi.
Ouais. Je vous inviterai aussi, est-ce que vous avez essayé au moins de faire un peu de méditation? Parce que j'ai l'impression que ça cogite beaucoup là dans votre esprit.
Ah oui, je suis hyper. Alors, mon optométriste là, qui me dit que vous êtes hyper métrope, vous êtes hyper speed et vous cogitez beaucoup. Je dis je suis quelqu'un qui cogite énormément. Ouais,
est-ce que vous m'avez entendu conseiller ce merveilleux petit livre qui est très, très, très court qui s'appelle On est foutu, on pense trop par Serge Marquis?
Non, je l'ai pas entendu.
Je vous le recommande. Il explique qu'on a tous dans le cerveau un petit hamster dans sa roue et que le hamster qui s'appelle Pensouillard, en pensant trop, il fait des pensouillures. C'est un livre qui est truffé de petits conseils, qui est très bien. Mais pour en revenir à la méditation, je pense vraiment. Alors, il faut du temps. Il faut accepter que la méditation, c'est pas une solution miracle en 3 jours.
Non.
Il faut le faire pendant 1 mois, 2 mois avant que ça se mette vraiment en place. Même quelques minutes par jour, c'est une manière aussi, là aussi, de faire un pas de côté. De laisser le cerveau en mode pause, de laisser se calmer un peu. Parce qu'on finit par ne plus y voir clair quand on tourne à plein régime comme ça.
Oui, puis après, donc, des trucs tout simples aussi. J'étais sur un site de sortie. Je n'osais même plus m'inscrire sur le site de sortie parce que je dis, si je m'inscris, si mes collègues de travail, parce que vous avez besoin de voir d'autres personnes, me voient ou machin, on va dire que s'il n'est pas malade, machin. Donc vous n'osez même plus sortir.
Et tout ça, ça va revenir. Il faut prendre les choses dans l'ordre et vous poser, faire effectivement tous les bilans possibles sur le plan médical, et ça, vous êtes en train de le faire, c'est très bien. Et travailler en thérapie, en hypnose ou avec autre chose pour commencer vraiment à soigner les blessures et vous apaiser. Apaiser votre cerveau qui est en train de s'enfumer un petit peu, là, tellement ça tourne.
Ouais. D'ailleurs, quand on parle de ça, donc mon hypnothérapeute, mais vous voulez me faire... C'est peut-être possible, moi je ne crois pas, parce que souvent moi, je suis négatif. Voilà, j'ai un problème, c'est que j'ai du négatif, alors que j'étais plein d'énergie positive, donc automatiquement j'attire le négatif.
Et qu'est-ce que vous voulez vous faire?
Il voulait me faire voir un spécialiste, un manipulateur, qui était doué donc, pour débloquer on va dire, certains nerfs, et tout ce qui était au niveau du cerveau, toutes les terminaisons nerveuses voilà, au niveau du cerveau. Et c'était quelqu'un qui fait ça depuis 40 ans, il m'a dit « il faut que je vous fasse voir ». Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu des problèmes de vue comme vous, qui ne voyaient plus. Et il y avait une personne notamment qui voyait sa vue baissait, c'est-à-dire quand vous sentez la luminosité, sa vue baissait, et puis ils ont dit « vous n'avez rien ». Donc ce manipulateur-là, un jour on va voir ce manipulateur-là, donc il a...
Mais pardon, mais qu'est-ce que c'est un manipulateur?
Alors c'est quelqu'un qui va... C'est-à-dire que vous avez, au niveau du rachis cervical, après il y a tous les nerfs qui partent, voilà, donc toutes les terminaisons nerveuses...
Mais c'est un ostéopathe, un kiné,
Non, c'est un manipulateur, je sais pas justement. Là, je n'ai pas le pédigré du bonhomme, donc je le verrai quand je... je saurai quand je le verrai. Mais apparemment, il est connu, c'est quelqu'un qui vient tous les 3 mois en Bretagne, et il fait des conférences... Et donc, cette personne-là, il avait débloqué la vue dans le sens où, bon, il a commencé à lui toucher le rachis cervical, mais pas loin du nerf d'Arnold. Et puis là, la personne, elle commençait à dire, mais oh, c'est bizarre, ça va un peu mieux. Et puis il m'attendait qu'il dise, gars, j'ai pas fini. Et puis après, là, hop, voilà, donc après, il y a des façons de faire. Hein. Après, je sais pas, et il travaille au niveau de la personne, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle la revoyait, elle a commencé à la revoir nettement. C'est-à-dire que j'avais des nerfs, enfin, c'est pas le nerf, oui, une partie du nerf optique qui était, voilà, des nerfs qui étaient bloqués, quoi.
Bon,
C'est
attention
pas
quand même
vu
à
en autre clairement.
ne pas tomber dans
Oui.
dans des arnaques ou dans des croyances comme ça. Testez-le avec tous les bémols du monde si vous en avez envie, mais soyez vigilant quand même hein, sur ce genre
Oui,
de
parce que
choses.
j'ai vu plusieurs magnétiseurs, et puis bon, c'est bah là j'ai vu un qui m'a soulagé mes problèmes de ventre, parce qu'automatiquement vous avez des problèmes de bide, vous êtes et la vue, bon, ça n'est pas trop soulagé la vue, quoi. Voilà. Mais le pire, ouais, dans votre dans l'histoire, quand on arrive là-dedans, c'est voilà, la solitude. La solitude, ne plus savoir quoi faire, ne plus voir personne, puis les amis travaillent, pendant que vous êtes mais non, les amis travaillent, donc on peut pas aller. Voilà.
Et en même temps, vous savez, quand on traverse des événements comme ça, quand on arrive, et j'espère que c'est le travail que vous allez pouvoir faire avec votre thérapeute, quand on arrive à prendre ce qui nous vient comme un défi à surmonter, et pas comme une trahison ou comme une blessure, alors il y a une nouvelle énergie qui arrive. C'est une énergie de transition qui va se passer pour vous. Vous me disiez, avant, je voyais tout enfin, j'étais quelqu'un de positif, maintenant je vois tout en noir. Ça
Oui,
va
oui.
rebasculer. Parce que la solution, elle n'est pas à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur. Et en faisant ce travail-là, vous allez la trouver. Vous allez aller
c'est ce que
soigner les blessures.
c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on oui, c'est oui, ouais, toutes les solutions, oui, on les a en soi, quoi. Alors on s'aide des autres, mais les solutions, faut qu'on les trouve soi-même. Mais même quand on vit, même souvent, quand on est en couple avec quelqu'un, on dit toujours qu'on est toujours tout seul, même si on est en couple avec la personne, on partage, mais
On est d'abord tout seul.
on est d'abord tout seul. L'être humain, il fait comme ça, même si on n'est pas même si on est grégaire, on a toujours besoin des autres, on est tout seul.
Et cette solitude dont vous parlez en ce moment, je pense qu'elle est nécessaire pour cette transition. Vous ne pourriez pas en ce moment, de toute façon, être avec trop de monde autour. Et encore moins avec une personne en relation amoureuse, parce que ça ne serait probablement pas la bonne personne elle serait en harmonie avec celui que vous êtes aujourd'hui, mais vous allez
Voilà, non.
changer. Hein,
Oui.
c'est ça.
Et une infirmière, bon ben voilà, c'est pas. Après, s'il y a des gens qui veulent. Moi, je suis dans un bon. Après, voilà, faire des sorties, des marches ou sur la région de Morlaix. Si, voilà, moi,
Morlaix,
je
vous
veux
êtes, hein,
bien
c'est
leur
ça?
donner. Hein, pardon?
Morlaix, vous avez dit.
Ouais, Morlaix, hein, ben, c'est dans le Finistère. Hein. S'ils veulent faire des marches ou discuter, moi, il n'y a pas de souci pour que je sorte, que j'arrive à me sortir, parce que je deviens. C'est pas la peur de la foule, mais j'en reviens. Ouais, je commence à avoir peur de sortir, comme dans l'histoire.
On vous transmettra les messages. Déjà, ne raccrochez pas David, puisqu'on a Anna, hein, qui a laissé son numéro de téléphone.
D'accord.
Mais pensez quand même d'abord à vous, là, tout de suite, pendant les quelques mois. Et ce qui me ferait plaisir, c'est que vous m'appeliez dans quelques temps pour me donner de vos nouvelles, me dire comment ça a avancé tout ça. Hein.
Et puis je vous donnerai, mais j'ai pas envie de le donner parce que bon, je suis pas là pour faire de la vente. Je vous donnerai en antenne si vous voulez les titres de mes deux livres. Mais bon, j'ai pas envie de. Je suis pas là quelqu'un pour faire de. Alors je reste honnête, hein, je suis pas un vendeur de cacahuètes. Donc si vous voulez, je donnerai les références de mes livres qui paraîtront sur Amazon. J'attends un ISBN déjà pour commencer.
D'accord.
Et après, je pourrai publier un de mes premiers livres. Voilà.
Bon, ça aussi, c'est un projet qui va vous faire du bien. Et vraiment, la porte est ouverte, David. Revenez quand vous voulez pour me raconter la suite.
D'accord, je vous remercie beaucoup et puis bon courage aussi à vous pour votre émission. Puis,
Ne
puis,
raccrochez pas surtout, hein, je vous passe
donc je ne
Maxime tout de
raccroche pas.
suite. Merci à vous,
D'accord,
David.
je vous remercie.
Au
Merci.
revoir.
Merci.